Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bing Tao Chen est un jeune Chinois de 30 ans. Il est né à Wuhan dans le Hubei, puis il a quitté son pays pour la France il y a 5 ans. Au début, il est venu faire des études d'ingénieur et il a découvert la liberté de vivre son homosexualité, entre autres, des cadences de travail plus légères que chez lui, une nouvelle vie. Il ne repart désormais qu'une fois par an au moment du Nouvel An chinois, voir ses parents. Cette année, son départ tombe le 17 janvier. À ce moment-là, on parle à peine d'une vague épidémie. Sa famille le rassure, il ne craint rien. Ce qui se passe ensuite à son arrivée, nous l'avons raconté hier dans Les Pieds sur Terre. Sa vie quotidienne, confinée dans le grand appartement de ses parents, au sein d'une résidence pour fonctionnaires enseignants de Wuhan. Ce qu'on y mange ou pas pendant ce temps, ce qu'on sait, ce qu'on ne dit pas, ce qui filtre à peine de la situation, à quoi ressemble cette ville fantôme. Une foule de détails qui racontent la vie quotidienne à Wuhan, au temps du corona, aussi banale qu'extraordinaire. Ming Tao appartient à une famille qui semble croire ce qu'on lui dit, adhère aux valeurs de la Chine d'aujourd'hui, suit la ligne, se conforme. Lui-même ne songe guère à mettre en doute les chiffres officiels, l'enthousiasme des volontaires venus soutenir Wuhan ou construire un hôpital, le modèle chinois. Aujourd'hui pourtant, il raconte sa fuite de Wuhan en plein corona, comment il arrive à resquiller pour quitter ce fameux épicentre et regagner la France, sa vie, sa liberté et le chocolat qu'il aime tant. Sauf qu'à l'arrivée, ce qu'il trouve n'est pas du tout ce qu'il attendait, comme on l'entend tout de suite au micro de Stéphanie Thomas, Wuhan Confidentiel, épisode 2.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
Un matin, je me suis réveillé et donc comme d'habitude, je vérifiais tout de suite les chiffres de la journée. J'ai eu les chiffres, ils ont explosé et ils ont annoncé 10 000 cas de plus de nouveaux cas, sachant que le jour avant, c'était seulement 300 nouveaux cas. Je crois pas du tout mes yeux, mais comment ça c'est possible qu'on a eu telle différence par rapport au jour d'avant? Et j'ai un peu creusé sur internet, donc je me suis rendu compte, ils ont changé la manière de compter. Avant, c'était vraiment toutes les chiffres nouveaux cas confirmés, c'est basé avec les tests. C'est-à-dire que si quelqu'un qui se fait tester, si les tests est positif, donc il y a un nouveau cas de plus. Comme en ce moment, il n'y avait pas assez de tests, donc les experts ils disent qu'on ne peut pas vraiment baser sur les chiffres des tests. Du coup, ils ont basé sur le diagnostic médical. Est-ce que du tout, est-ce que de la fièvre? Avec tout ça, qu'ils ont dit, bah, toi, tu es peut-être 80% contaminé par le virus et on nous compte dans le nouveau cas. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'en Chine, les systèmes des hôpitaux sont différents que celui de la France. Parce qu'en Chine, il n'y a pas ce genre de médecin de famille. C'est-à-dire que dès que tu es un peu malade, peu n'importe quel type de maladie, on doit aller à l'hôpital. Donc au tout début, donc il y a beaucoup de gens qui sont en fièvre et tout ça, donc ils sont tous allés à l'hôpital pour voir les médecins. Les hôpitaux à ce moment-là, c'était vraiment blindé. Pour le SARS, on a déjà construit un hôpital en 2 semaines, je pense. Donc bah, cette fois, c'est l'hôpital Ruoshengshan Yiyuan. Ça nous a pas très choqué la vitesse de construire ce hôpital parce que la Chine, on est connu sur la vitesse de construction, sur les bâtiments, sur le DGV, la ligne de DGV et tout ça. Et en plus, cette fois, avec la situation de Covid, il y avait eu beaucoup de gens qui sont spontanément allés donner un coup de main. Donc ça aussi, ça a accéléré la construction. Je me suis rendu compte du danger très rapidement, notamment quand le mort augmente. Par contre, sur la peur, je suis pas sûr que j'en ai eu de la peur. parce que très rapidement, moi, je me suis confiné avec mes parents. Donc, on sort pas du tout. On respecte toutes les consignes. Donc, il n'y a aucune possibilité qu'on rattrape par le virus. Heureusement, dans mes familles proches, il n'y a pas eu de personne qui est malade. Seulement un peu plus lointaine, donc un collègue de mon cousin Peike et un ami de collège, il y a ses parents qui est malade.
Pendant ce temps-là, on a vu sur la télé et que maintenant, la virus est vraiment partout dans le monde. Dans la France, on commence à avoir des réactions sur est-ce que la France va être confinée. Et il y avait beaucoup aussi d'informations qui circulent sur Internet, notamment WeChat, qu'il y avait beaucoup d'Asiatiques, même pas vraiment des Chinois, agressés dans la rue parce que y a plein de des Français qui pensaient que c'est à cause des Asiatiques qu'on est dans cette situation de pandémie. J'étais très surpris, j'étais très triste aussi d'avoir eu ce genre d'informations. Comment les gens peuvent réagir comme ça en agressant des Asiatiques? Ils ont pensé peut-être de faire ça, ça peut tuer les virus. J'ai dit à mes parents que je voulais rentrer à Paris. Avec la situation en France, mes parents ils sont tellement inquiétés parce que ils nous ont dit que maintenant le monde entier n'est pas en bienveillance sur les Asiatiques. Pourquoi tu voulais rentrer? Mon boulot est en France. Ma vie est en France, donc comme les autres Asiatiques qui est bien sûr sur place, c'est mon deuxième maison quoi, donc c'est normal que je rentre en France. Tous nos espoirs sont posés sur une application de QR code, donc cette application qui est facile à installer sur tout type de portable. Il y a 3 couleurs potentielles qui sera distribuée concernant la situation de coronavirus. J'ai installé cette application. J'ai maintenu la couverte verte pour que je puisse sortir de la Chine et rentrer à Paris. Au bout de 15e jour, j'ai bien obtenu la couleur verte sur mon application QR code. C'est un des critères pour que je puisse sortir de la Chine et sortir de la situation bloquante. Donc j'étais super excité et content.
Nous sommes au début du mois de mars. Bing Tao n'en peut plus de tourner en rond chez lui. Il cherche par n'importe quel moyen à regagner la France.
Je rentre dans le catégorie des personnes qui sont coincées à Roubaix, qui peuvent sortir. Mais il faut une attestation de reprise de travail. C'est-à-dire comme quoi que l'entreprise a repris. Et l'entreprise a besoin de toi pour aller bosser.
Le matin du 2 mars, il tombe sur une offre d'emploi. Une usine située dans la province voisine recherche des ouvriers pour fabriquer des masques et du gel hydroalcoolique. Il pense avoir trouvé la solution pour s'échapper de Wuhan et ensuite quitter le pays. Sur le papier, son plan est jouable. Mais assez vite, il tombe à l'eau.
Mais malheureusement, le recruteur... leur critère, c'est que qu'ils ont besoin seulement des personnes qui ont déjà une expérience en tant que opérateur dans ce genre de usine qui fabriquait des masques. J'ai essayé, mais ça a tombé à l'eau. Bien sûr, j'ai essayé d'obtenir cette attestation auprès de mon entreprise française. Et évidemment qu'on n'a pas réussi à avoir une version chinoise de cette attestation. Donc, je me suis dit, je vais en fabriquer. Et avec cette attestation, j'ai réussi à sortir de la province en passant à une autre province. J'ai trouvé une espèce de Blablacar équivalent pour sortir de la province Roubaix. Parce que à l'époque, il y avait seulement l'autorisation de circulation des voitures privées. Donc, il n'y avait pas de transport en commun. Je suis allé à la province juste à côté. Donc, la ville, elle s'appelle Yunnan. Il y avait encore des TGV. Donc, j'ai pris le TGV de Yueyang à Shanghai. 5 heures de train. Donc, j'ai réussi à arriver à Shanghai. Et ensuite, j'ai pris le métro de la station de Shanghai à l'aéroport de Shanghai, donc l'aéroport Pudong. Pendant le trajet dans le métro, il y avait du monde et tout le monde est masqué. Il y a des gens qui essayent de respecter la distance sécuritaire, mais avec tant de monde dans le métro, c'est compliqué. Et en arrivant sur l'aéroport de Pudong, donc il y avait plus personne dans le métro. J'étais un peu angoissé parce que normalement, arrivé dans un aéroport, normalement il y avait du monde. Tout ce que je vois, ce sont des employés en combinaison, donc bien protégés et tout ça. Mais il y avait personne qui est aux alentours de moi.
Il est à peu près 23h, jeudi 19 mars. Après un voyage de 1200 km en voiture, Bing Tao n'est pas surpris quand, arrivé à l'aéroport de Shenzhen, un vigile lui prend une fois de plus la température. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu à présenter sa fausse attestation de reprise de travail.
Donc j'ai réussi à poser une question à un employé, comment je peux rentrer dans l'aéroport, parce que toutes les entrées de l'aéroport sont apparemment fermées. J'ai eu de la réponse, c'est que effectivement il y en a une seule entrée qui est encore ouverte. L'employé, bien sûr en combinaison, m'a dit oui. Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes bien arrivé à l'aéroport de Shanghai ou vous voulez partir? Je lui ai répondu que je voulais partir. Il m'a dit ok, c'est étonnant parce que pour l'instant, il y avait seulement des gens qui sont revenus en Chine au lieu de partir de la Chine.
À l'intérieur de l'aéroport, les employés sont en combinaison blanche avec masque, lunettes et gants. Il n'a jamais vu un aéroport aussi vide.
Donc j'ai réussi à arriver à la caisse de enregistrement. Il y avait seulement 6 personnes qui en attente, mais cette attente qui était super longue.
Quand il se présente à l'enregistrement, ce qui devait être une formalité, c'est-à-dire présenter son passeport à l'hôtesse, devient un cauchemar. La compagnie doit appeler l'ambassade de France pour vérifier un à un que chaque passager est bien autorisé à embarquer. Il n'y a pas de ligne directe, il faut passer une kyrielle de services et de musique d'attente avant d'obtenir ou pas l'autorisation de retourner en France.
Chaque fois, il y a un passager qui passe par le numéro général, donc quasi 15 minutes d'attente de sonnerie pour qu'il y ait une personne en face. Et heureusement, avec mon titre de séjour de 4 ans, j'ai pas eu de problème de rentrer dans l'avion. Donc dans l'avion, ils ont seulement ouvert une zone, une toute petite zone derrière l'avion. On était une 30aine de personnes dans l'avion. Bien sûr, tout le monde est masqué parce que c'est obligatoire. Avant d'arriver en France, il y avait ma sœur qui m'a bien préparé des médicaments chinois. Donc il y avait 2 types de médicaments. Le premier, donc, c'est le type de médicaments chinois pour la prévention. Donc, ce sont des médicaments officiels qui sont utilisés en Chine pendant l'épidémie pour tous les employés extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, les voisines qui sont venues pour mesurer la température et l'aider à distribuer de ce médicament chinois pour la prévention. Après, j'ai aussi amené un mois de dose de médicaments pour la guérir. C'est-à-dire, au cas où, si je me rattrape le virus, j'ai quand même au moins un médicament qui va marcher, quoi. C'est aussi un médicament chinois qui est concentré et qui est en forme de pilule. En arrivée à Charles de Gaulle de Paris, donc l'aéroport de Paris, j'étais étonné. Tout de suite, quand je sors de l'avion, il n'y avait pas de mesure de température. Donc tout le monde était libre de sortir de l'avion, quoi que ce soit. Et en arrivé à la douane, tout de suite, il y avait du monde qui sont réunis sur la douane. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a une épidémie en France? Parce que j'ai vu très peu de personnes, ils ont porté des masques. Ma situation n'est pas du tout pareille que celui de l'arbre de Wuhan. Donc ça fait une grosse différence pour moi en quelques heures, en une journée, de voir les deux. Donc j'ai récupéré ma valise, j'ai un peu échappé du monde et je suis sorti. Après, il y a mon copain qui est bien sûr venu me chercher à l'aéroport. Le moment que je le voyais, bien sûr, je voulais le faire un câlin et tout. Mais j'ai pas oublié que je viens de la Chine et j'étais dans un avion qui est fermé pendant 12 heures. Donc je lui ai dit non, bah on peut pas faire des câlins, il faut qu'on garde une distance de sécurité. Il était pas très content, il était un peu étonné pourquoi j'ai fait tout ça. Même lui, je pense que il a pensé que j'ai fait un peu trop. Mais pour moi, c'était tellement normal de respecter tous ces consignes-là. On est le 20 mars, donc il m'a accompagné jusqu'à chez moi et il m'a laissé, il est rentré.
À la radio, Bingtao a entendu le Premier ministre annoncer 2 semaines de confinement. À Wuhan aussi, ça devait durer 2 semaines.
Je me suis dit, après 2 mois en Chine, c'est quand même un très bon chauffement pour moi en France. Donc j'ai appris comment passer du temps de chez moi, c'est-à-dire d'essayer de m'occuper au maximum. J'ai appris des choses en ligne, j'ai joué un peu de piano pour me détendre. Donc j'ai essayé de faire un peu de sport aussi chez moi. Et heureusement, je peux faire du télétravail, donc les jours ça passe vite.
Voici donc Bingtao coincé chez lui une deuxième fois. Cette fois, dans un 2 pièces à Aubervilliers. Tous ses collègues le questionnent sur le confinement, la situation à Wuhan, et lui demandent des conseils, fébrile et inquiet.
Donc, après, je suis rentré chez moi, tout va bien. Donc, je suis allé à supermarché. Et je suis rentré, j'étais étonné. Personne ne porte les masques. Il n'y avait pas grand-chose qui a été mis en place pour essayer d'éviter la propagation de virus. Seulement, la distance de sécurité a été un peu, on va dire, travaillée par un monoprix. C'est-à-dire que par terre, il y a des lignes, donc 1 mètre sur l'autre. Donc, il faut les gens qui respectent les distances de sécurité. À part ça, il n'y a rien d'autre. Pourtant, en France, il y a le Covid aussi. Donc, en Chine, les masques sont vraiment obligatoires dans le lieu public. Dans le même temps, en France, des experts, des ministères de la Santé, qui disent que porter un masque est inutile. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est face le même virus? J'étais un peu étonné aussi par rapport à certains motifs de sortir. C'est-à-dire, on peut s'autoriser de faire un jogging. On peut aussi s'autoriser de sortir des chiens. C'est-à-dire qu'on peut sortir quand même quand on veut, quoi. Bien sûr, quand j'ai parlé ça avec mes parents et mes cousins, et tout de suite, ils n'ont pas compris pourquoi ce genre de mesure a été mise en place, pourquoi c'est pas comme celui de la Chine. Ils trouvent que c'est un peu n'importe quoi. Mais après, moi, personnellement, moi, je comprends. Enfin, j'ai essayé de comprendre. La France, c'est que sur les masques, c'est que comme ils n'ont pas, donc ils ne peuvent pas demander tout le monde porter un masque. Vu que s'il n'y a pas de moyen de trouver un masque, ça crée juste un carreau, voilà quoi. Après échanger avec mes parents par téléphone, donc la ville a été déconfinée. Mes parents, ils me disent qu'ils ont un peu choqué de ce déconfinement parce que déjà mes parents ils sortent beaucoup moins qu'avant. Donc je pense que les gens qui ont quand même peur de ce virus sont s'auto on va dire diminuer les sorties. Et quand mes parents ils sont allés faire des courses, ils m'ont dit que dans les supermarchés, il y avait beaucoup moins de monde qu'avant. Donc même les gouvernements, ils ont déconfiler la ville, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui sont encore gardés à la même vie de confinement.
La plupart des amis de Bingtao sont persuadés que le confinement ne durera pas longtemps. Selon eux, les Français sauront mieux gérer le virus que les Chinois. Ils se font des illusions, pense Bingtao.
Ouais, je pense que aussi c'est que, enfin, vous croyez tellement pas les chiffres de morts parce que vous pensez, enfin, c'est normal en tant que Français, par exemple, si même mon copain, il est au courant de tout ce que j'ai passé en Chine là. Mais genre lui, il peut même pas comprendre ce que j'ai vécu en Chine, parce que c'est vraiment tellement différent, tellement strict en Chine. Donc tous les jours, je me balade de la chambre, dans la cuisine et toilette pendant quasi 3 semaines. J'ai même pas touché la poignée de la porte.
Il se souvient que la Chine s'est rapidement retrouvée en manque de masques et de matériel de protection. Il a vu ces images de médecins désespérés et de soignants en larmes dans des hôpitaux saturés de Wuhan.
Effectivement, au tout début de l'épidémie, qu'on a eu des vidéos qui est partagées sur WeChat, les gens qui pleurent dans des hôpitaux parce que ils font la queue à attendre voir un médecin, et des gens qui sont tombés dans la pomme directement dans des hôpitaux.
Les vidéos montrant une infirmière qui pleurait, obligée de se raser la tête parce qu'il n'y avait plus assez de Charlotte, ont tourné en boucle. Après, la situation s'est répétée en Italie et tout semble se profiler en France. Après ça, il ne comprend pas où est la prévention. Pourquoi rien n'a été anticipé?
Pour l'instant, en France, moi, j'ai continué le consigne un peu plus strict. Je vais suivre en fait, des protections plutôt à la façon chinoise qu'à la façon française. Je pense que je vais encore continuer de me limiter des sorties, et c'est de ne pas trop contacter les gens, quoi. Après ce 5 mois de confinement entre la Chine et la France, je me disais que ouais, ça va bien, et je pense que par rapport à la Chine, les Français sont pas du tout la même style de vie. Ils ont pas non plus la même valeur de vie. Ils sont beaucoup plus sur la liberté de faire les choses qu'ils n'ont pas fait. Donc je trouve que la réaction des Français, ils sont normales. La différence entre de la Chine et la France, c'est que j'ai entendu, il y avait une vieille dame française, elle a dit sur un vidéo qu'elle préfère de mourir à cause de coronavirus que d'ennui. Pour les Français, c'est la liberté devant tout, et sachant que certaines libertés, c'est dangereux pour les autres.
J'ai beaucoup de contacts et des connaissances en Chine, mais il n'y a personne qui est mort aux alentours de moi à cause de coronavirus. Mais en France, avec peu de contacts et peu de connaissances que j'ai, j'ai déjà plusieurs personnes qui sont vraiment malades. J'ai 2 personnes qui sont vraiment mortes à cause de ça. Donc avec ce différence par rapport à mon propre expérience, je trouve que ce chiffre, c'est un reflet de la réalité, quoi. À la fin, donc, il y a 4000 morts en Chine. C'est le seul chiffre que j'ai eu de toutes les informations que j'ai vues, soit par WeChat, soit par Internet. Je n'avais pas eu d'autres chiffres. Si je me souviens bien, en France, on a une bonne 30 000 morts. Le problème, est-ce que ce n'est pas le même type de confinement? Mais chez nous, ils ont bien coupé la connexion sociale. Donc, c'est pas rien, quoi. Et en plus, on est très vite vraiment, on a réussi à séparer les malades et les non-malades. C'est-à-dire quand toi, t'es vraiment malade, donc bah t'es à l'hôpital. Et toutes les gens que t'as contactés, ils sont semés dans la gymnase. Donc ils ont coupé directement la possibilité de contaminer les autres personnes. Donc c'est aussi avec ça que je pense qu'on a réussi de baisser le nombre de contaminations. Et en plus, avec les soignants, il y a toutes les autres Provence, les soignants, ils sont arrivés par l'avion, par train, pour justement aider la Provence Roubaix, notamment Wuhan, sur la gestion, parce qu'on a construit des gymnases, donc il a besoin des soignants. Donc je pense qu'à ce moment-là, à Wuhan, à Roubaix, l'ensemble de Roubaix, qu'on a quasi 60% de soignants de l'ensemble de la Chine. Parce que même quand t'as vraiment un tout petit peu malade, t'as quelques soignants qui s'occupent de toi. Et en France, bah, on est chez nous. Enfin, c'est, comment dire, pas comparé à la Chine, c'est que quand t'es vraiment juste un tout petit peu de fièvre, t'as déjà des soignants, ils sont là, qui mesurent la température, qui, comment dire, ils te construisent un dossier pour voir est-ce que ta situation s'aggrave ou s'améliore. Donc, c'est avec tout ça qu'on a réussi à maintenir un taux de mortalité faible.
C'était Wuhan Confidentiel, deuxième et dernière partie, un reportage de Stéphanie Thomas, réalisé par Clémence Gross. Je dois préciser que ces chiffres sur la mortalité du Covid à Wuhan et leur explication que vient de proposer Bing Tao correspondent très exactement à la version officielle donnée par Pékin. Ils ont été très largement contredits, il faut le savoir, par les rares enquêtes indépendantes qui ont été faites, les avis des spécialistes et des infectiologues. Un article publié par un cabinet d'avocats de Shanghai sur WeChat, cité par Courrier International notamment, s'est appuyé sur la mortalité habituelle de cette ville de 12 millions d'habitants et l'activité des crématoriums pendant 2 mois de confinement pour estimer que le nombre de morts serait 10 fois supérieur au moins à celui annoncé. Mais la plupart des journalistes étrangers ayant été expulsés, les voix dissidentes chinoises ayant bizarrement disparu, il faudra sans doute longtemps avant d'établir un compte certain. Au mixage, il y avait Eric Villenfin. L'attaché de production, c'est Camille Richir avec Sarah Jerry. Oui, merci à Véronique Debure. Wuhan Confidentiel, c'est un livre par Stéphanie Thomas et Bing Tao qui est à paraître chez Flammarion en septembre. Il est inspiré par un entretien accordé par Bing Tao au site Les Jours. Excellent site d'information que je vous recommande également.